quelques jours, je priais jeudi à ceux du groupe qui est chez moi, là, qui se tient lieu, le nouveau groupe, le Saisir les Bases. On demandait de prendre un temps à la fin de la réunion et de louer le Seigneur et de faire un chant pour le Seigneur. C'est ce que nous avons fait. Nous avons commencé à simplement élever Dieu, pas prier pour le plaisir de prier pour un sujet précis, mais simplement le fait d'élever Dieu. Et vous savez, à ce moment-là, j'ai eu une vision et j'ai vu une énorme nappe blanche, comme celle dans la Bible d'Ananias, mais ce n'était pas dans le même contexte. Et il y avait une énorme nappe blanche, une nappe blanche qui était remplie de tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il y avait une telle provision et l'Église était devant cette nappe blanche. Et l'Église était en train de tendre la main et le Seigneur m'a dit « Vous n'avez qu'à vous servir. » Et j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ?» Devant cette nappe, on était devant cette nappe, mais on n'arrivait pas à se servir. Et après, j'ai commencé à réfléchir et j'ai dit « Seigneur, tu as mis de grandes choses en nous et pour nous. » J'ai dit « Tu es vraiment le Dieu du potentiel. » Dans le potentiel, je vais vous donner après quelques définitions, mais il y a de tellement grandes choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas encore vues en nous et pour nous. Et ces seules choses, il les a déjà créées. Elles sont déjà à l'existence. Elles sont à l'existence quelque part. On n'a qu'à les demander et les récupérer. Et je suis allée sur Internet et j'ai regardé. Vous savez, sur Terre, il y a 7,43 milliards personnes. Et sur ces 7,43 milliards personnes, il va peut-être y avoir 2% qui vont arriver à se saisir réellement de tout le potentiel que Dieu a préparé. Beaucoup de talents sont perdus dans la nature. Beaucoup je vois des musiciens, des peintres. Il y a beaucoup de choses que Dieu voulait pour son royaume, des personnes que Dieu voulait pour utiliser pour son royaume et qui sont parties quelque part dans la nature. Vous savez, on voit Elvis Presley, je vois celui qui est mort il n'y a pas longtemps, Prince. C'était des talents musicaux. Je me dis, mais si ces personnes avaient servi Dieu, si ces talents et ce potentiel, et là, il n'y avait qu'une partie qu'on voyait, mais si elles avaient servi Dieu. Et après, je réfléchissais, je me dis, quand je vois une personne sur cette chaise, quand je vous vois assis sur votre chaise, en fait, il y a 3 personnes. Il y a la personne que vous êtes actuellement aujourd'hui. Il y a la personne que le diable, et la chair, parce qu'il n'y a pas que le diable, voudrait que vous soyez. Et il y a la personne que Dieu a créée avec son potentiel à l'intérieur. Tout ce qui a été créé sur cette terre a été créé avec un potentiel. Prenez Genèse 1, 11, qui nous dit « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. » Et cela fut fait ainsi. Et là, ce matin, j'ai pris avant de partir à la maison quelque chose qui va... Une pomme. Alors, je ne sais pas si c'est la pomme d'Adam ou pas, mais en tous les cas, c'est une pomme. Dieu a créé une pomme. Il a créé une simple pomme. Seulement, dans le principe de Genèse 1, 11, quand on ouvre cette pomme, il y a un cœur. Et dans ce cœur, il y a des pépins. Et dans ces pépins, non seulement il y a une autre pomme, mais en plus, il y a carrément un verger derrière. Et tout ce que Dieu a créé, il a créé avec un potentiel d'agrandissement. Il avait déjà prévu à la base, en créant la pomme, qu'il créerait des vergers. On va voir on va voir un petit peu la définition du potentiel. Vous savez, le potentiel, je rappelle, et vous allez me l'entendre souvent dire, c'est quelque chose qui existe, mais qu'on n'a pas encore vu. Le potentiel, ce sont des capacités latentes, de la puissance en réserve, de la force inexploitée, des ressources d'énergie, des réussites à l'état de larve, des talents cachés, des dons enfouis. C'est ce que vous avez, mais qui ne s'est pas encore manifesté. C'est tout ce que vous pouvez être, mais qui ne s'est pas encore réalisé. C'est tout ce que vous pourriez accomplir, mais que vous n'avez pas encore accompli. Votre potentiel n'est pas dans ce que vous avez fait, mais dans ce que vous êtes capable de faire dans le futur. Le potentiel est caché. Vous avez un potentiel qui est en vous. Et ce matin, je veux vraiment vous encourager parce que je disais, Seigneur, on ne réalise pas qui vit en nous. Celui qui a le Seigneur, il a la vie. Et quand on a Christ en soi, on a la vie de Christ en soi. Et si on a la vie de Christ en soi, on a la possibilité de vivre à un autre niveau que celui dans lequel nous sommes. Le potentiel est ce que vous pouvez faire, qui est en vous et que vous ne connaissez pas. Le potentiel, c'est le plan de Dieu qu'il a mis en vous, qu'il ne s'est pas encore réalisé parce que vous ne l'avez pas encore vu, parce que vous ne l'avez même pas deviné et parce que vous n'avez pas encore, peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment qui il est. Le potentiel, c'est tout ce que Dieu a mis en vous. On va regarder quand commence le potentiel. Quand on prend la Genèse, on va dire au verset 1, si je peux m'exprimer ainsi, 0. La Bible dit avant 1 qu'il n'y avait rien. Rien, c'est rien. Il n'y avait que Dieu. Dieu, lui, était déjà là. Et pourtant, Dieu, dans son potentiel, avait déjà créé la terre en lui. Il n'a fait qu'une chose, il a commencé à parler la parole. Genèse 1, il a dit « Dieu créa les cieux et la terre ». Après, on voit qu'il a créé la lumière et les luminaires. On voit qu'il a créé toutes sortes d'espèces, toute la faune, la flore, enfin tout ce qu'on veut, les animaux. Et finalement, il a créé l'homme par sa parole. Mais vous savez, quand Dieu a prononcé des paroles de vie, quand il a parlé et qu'il a dit que la lumière soit, en lui, elle existait déjà. Je répète, le potentiel est quelque chose qui existe mais qui ne se voit pas encore. Si on commence à voir la chose, ça n'est plus du potentiel. Ce qui est potentiel est dans l'attente de se manifester. Et vous savez, souvent, notre plus grand ennemi, c'est ce qui est déjà accompli. Parce qu'on a vu la main de Dieu sur nos vies, on a vu certaines choses se passer dans nos vies, on a vu comment Dieu a pu nous utiliser, comment Dieu nous a bénis dans nos familles, comment Dieu nous a bénis dans notre travail, et on a tendance à commencer à s'endormir. On a tendance à commencer à se laisser aller. Et vous savez, le plus grand ennemi, ne vous endormez pas sur vos lauriers, ne restez pas là où vous en êtes parce que Dieu a quelque chose de beaucoup plus grand. Ne regardez pas à ce que vous avez fait, mais restez toujours dans l'expectative de ce qu'il peut faire. Il est le Dieu des défis. Il aime que nous fassions des choses que nous n'avons jamais faites. Il s'attend à en trouver dans une personne qu'il a créée bien plus que ce que l'extérieur de cette personne révèle. Quand moi, je vois Pasteur Elisabeth, je vois Florence, etc. Je vous vois à la façon que je vous connais. Je vous vois, mais Dieu vous voit à sa façon à lui. Dieu vous voit avec son regard à lui. Dieu vous voit avec le potentiel à lui. Dieu vous voit avec ce qu'il a mis en vous. Dieu vous voit avec une personne qui va marcher avec lui. Dieu vous voit avec une personne qui va courir avec lui. Dieu vous voit comme une personne qui ne va pas s'économiser. Une personne qui va vouloir faire ses plans, qui va vouloir faire sa volonté et qui va vouloir mettre en sortir de lui tout ce qui a été caché, tout ce qui est caché et qui est à l'intérieur. Vous savez, le potentiel, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Cette église, elle a 3000 membres. On ne les voit pas encore, mais ils y sont. Cette église, elle a un bâtiment. Dans le potentiel de Dieu, cette église a déjà le bâtiment. Et le bâtiment est là. Dans le potentiel de Dieu, le bâtiment existe. Les âmes existent, la moisson est là, les talents sont là, les dons sont là, la provision est là. Les travails dont on a besoin est là. Les entreprises qui doivent être créées sont là. Tout dans le potentiel existe déjà. Tout dans son potentiel existe déjà. La seule chose qu'il faut qu'on réussisse à faire, c'est s'en saisir. Devant cette nappe, on tendait les bras. Mais vous savez, c'est au-delà de tendre les bras. Il faut se saisir par la foi. Il faut se saisir de ce que Dieu nous a déjà donné. Nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi ? Parce qu'en lui, elles existent déjà. Vous savez, beaucoup de personnes meurent sur cette terre sans jamais avoir fait quoi que ce soit pour le Seigneur. Et le jour de leur départ, ça n'est que regret. Parce que par moments, elles réalisent ce à côté de quoi elles sont placées. Et moi, je vous demande aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez être ? Une pomme ou un verger ? Vous avez de la... Je vais prendre un exemple. Moïse. Quand Moïse a été placé dans le berceau sur le Nil et qu'il a été récupéré par les Égyptiens, s'il était mort, il n'aurait jamais pu faire sortir les Égyptiens d'Égypte. Il n'aurait jamais écrit les tables de la loi. Si Paul, le persécuteur, celui qui tuait, avait été lui-même tué, il y a une partie du Nouveau Testament qu'on n'aurait pas. Bon, probablement Dieu aurait suscité quelqu'un d'autre parce qu'il le voulait. Mais, je veux dire, il n'aurait pas pu le faire. Et si vos parents étaient partis avant que vous veniez au monde, vous ne seriez pas là avec tous vos talents. Vous savez, quand il y a la conception, il y a un ovule et un spermatozoïde. Sur les 500 millions de spermatozoïdes, un seul va féconder l'ovule. Pourquoi celui-là ? Et celui-là, c'est celui que Dieu a choisi pour créer. Le jour où vous avez été créé, Dieu vous a choisi. Avant que vous ne soyez, vous existiez déjà en lui. Pourquoi est-ce qu'il vous a créé comme ça ? Pourquoi ? Parce qu'il avait des buts précis pour la vie. Parce qu'il avait besoin de vous. Et parce qu'il savait qu'en vous créant, il vous faisait confiance. Et il disait, lui, je le veux. Quand il a appelé le pasteur Marie Lamoulaine, il a dit, je la veux, elle. Parce qu'elle va être le pasteur de l'église à Nice. Entre autres. Paul a dit dans 2 Timothée 4, 5, si vous voulez le prendre. 2 Timothée 4, 5 à 7. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul est tout simplement en train de nous dire dans ce verset, si tu n'utilises pas tout ce que le Seigneur t'a donné, tu es en train de perdre ta vie. Si tu n'utilises pas tout ce que le Seigneur a mis en toi, tu es en train de gâcher ta vie. Paul est en train de dire, je suis arrivé sur terre, j'étais plein du potentiel de Dieu. Et je repars à cette terre, je suis vide. Le réservoir est vide parce que j'ai utilisé tout le potentiel que Dieu a mis en moi. Pomme ou verger ? Il y a peut-être des questions qu'il faut arriver à se poser. Premièrement, c'est qui suis-je ? Donc vous savez, vous êtes une nouvelle créature, vous êtes tous fils de Dieu. Ce n'est pas qui je suis de l'extérieur, mais qui je suis de l'intérieur. Si on ne réalise pas réellement qui on est de l'intérieur, en lui, on ne pourra jamais rentrer dans le potentiel qu'il a pour nous. Parce qu'on va commencer à vouloir rentrer avec certaines peut-être aperçus qu'on a eus, mais on va vouloir y rentrer par notre propre force. Et quand on commence à réaliser que la plénitude de Christ vit en nous, que Christ vit en nous, que ses talents sont en nous, que nous avons reçu cette puissance d'en haut, quand on va commencer à le réaliser, on va pouvoir commencer à rentrer plus facilement dans ce qu'il a pour nous. Jérémie 1,5 dit « Je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère ». Je t'avais mis à part pour me servir avant que tu sois né. » Imaginez, avant la conception, le Seigneur nous avait déjà mis à part. Il nous avait mis pour être pomme ou verger. Parce que ça, une fois qu'on est sur terre, ça reste notre choix. Qu'allez-vous faire des prochaines années de la vie? La question à se poser, c'est où vais-je? Est-ce que je vais chercher ma destinée? Est-ce que je vais chercher à l'accomplir? Ou est-ce que je vais seulement me contenter d'un maison boulot dodo? Est-ce que je vais permettre au Seigneur de m'utiliser dans ce qu'il a pour moi? Ou est-ce que je vais continuer à vivre au niveau que je suis? Vous savez, même dans le Seigneur, même des grands serviteurs dans le Seigneur, Dieu n'en a jamais fini avec. Il y a toujours un potentiel qui est là et qu'il est prêt à donner. Enfin, je pense que je ne me trompe pas, le pasteur pourra confirmer. Mais je pense que même quand on a des grands serviteurs que Dieu a utilisés, réutilisés, il a toujours quelque chose de nouveau pour eux. C'est dans le principe de Dieu, le principe de la semence. C'est un pépin qui devient une pomme, qui devient un verger. Vous savez, chercher, la Bible dit de chercher le royaume de Dieu. Pourquoi il nous a demandé de chercher le royaume de Dieu? Parce que quand on cherche le royaume de Dieu, on va trouver l'endroit où il nous veut. Quand on cherche le royaume de Dieu, quand on cherche Dieu, on va savoir exactement ce qu'il veut, comment il nous veut et surtout comment il nous voit. Nous sommes venus sur terre pleins de potentiel, rappelez-vous. Nous sommes pleins de potentiel et le jour où nous quittons cette terre, il faut que le potentiel qu'il a mis en nous soit épuisé. S'il n'est pas épuisé, ça veut dire comme la parabole tout à l'heure des talents que le pasteur a donné pendant les offrandes. Vous savez, si les talents n'ont pas été utilisés, ça veut dire qu'ils vont retourner au Seigneur le jour où on partira. Maintenant, je vais vous poser une question. Comment est-ce que Dieu vous voit? Quand Dieu vous regarde, il voit ce que personne d'autre ne voit. Et peut-être même pas vous, vous voyez. Quand il a regardé Adam et Ève, pourtant, à la base, il n'y avait qu'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Okay? Il y avait un homme, il a fait Adam, après il a tiré Ève. Et il n'a pas eu besoin de créer d'autres Adam et Ève. Il a fait un homme et une femme. Et quand il a vu Adam et Ève, il a vu l'humanité entière. Quand il a regardé Abraham, il lui a dit « Je te ferai père d'une multitude de nations ». Il a vu quoi? Il a vu des nations. Il n'a pas vu que Abraham et Sarah qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Il a vu des nations. Il ne s'est pas arrêté à ce qu'il a regardé. Il ne s'est pas arrêté à ce que l'on voyait dans le naturel d'Abraham. Il s'est arrêté au potentiel qu'il avait mis pour Abraham. Il est arrêté au potentiel parce qu'il savait que d'Abraham descendraient des nations. Quand il a regardé Moïse, Moïse était quelqu'un qui bégayait, comme moi je fais de temps en temps. Il a regardé Moïse qui bégayait. Il a vu quoi? Il a vu un libérateur. Il ne s'est pas arrêté à ce que l'être humain voit. Il a vu beaucoup plus loin. Il a vu beaucoup plus profond. Quand il a vu David, le berger, David, un jeune enfant, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu celui qui allait vaincre Goliath, mais il a vu un grand roi en lui. Maintenant, la question qu'on devrait poser au Seigneur, c'est comment me vois-tu? Dans Juges 6, 12, ça parle de Gédéon, je vais vous le lire. Il appelait Gédéon vaillant héros. Et pourtant, Gédéon n'était qu'une personne qui se cachait parce qu'elle avait peur des Madianites pour battre le blé. Il se cachait. Et Dieu l'a appelé vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'il a vu en lui beaucoup plus que ce que le naturel peut nous donner de voir. Nous, nous regardons avec des yeux naturels. Dieu voit avec un regard spirituel. Les hommes et les femmes regardent, mais Dieu voit. Quand Jésus est né, sans doute beaucoup de personnes n'ont vu qu'un bébé dans une crèche. Quand il a grandi, ils ont vu le fils de Marie et Joseph. Mais vous savez quoi? Dieu voyait le Christ ressuscité. Dieu voyait la victoire du monde. Dieu voyait le sauveur du monde. Dieu voyait son plan pour que l'être humain puisse retourner dans la présence de Dieu qui avait été perdu dans le jardin d'Éden. Dieu voyait en Christ ressuscité l'humanité réconciliée avec lui. Et pourtant, à l'époque, combien ont vu Jésus comme un bébé, comme un enfant normal. Mais c'était bien au-delà. Le potentiel ne se termine jamais. Vous savez, le mot omni, potent, a deux mots. Le premier, c'est omni, qui vient du latin omnis, qui veut dire tout, qui veut dire chaque. Et potent, puissant. Donc Dieu est omnipotent. Ça veut dire qu'il a constamment du potentiel en réserve et ça veut dire qu'il est en perpétuel mouvement. Dieu est le Dieu du mouvement. Et quand on commence à stagner et à rester dans nos baskets sans bouger, c'est pas normal. C'est pas normal. Sors de tes baskets parce que Dieu est le Dieu du mouvement. Il est omnipotent. Il a un potentiel à toi et il attend que tu ailles le chercher pour l'exploiter. Vous savez, on pourrait dire, entre guillemets, que nous sommes omnipotents. Alors, je ne me veux pas, loin de là, me mettre au niveau de Dieu. Mais il y a en nous un potentiel qu'on peut constamment utiliser. Et c'est lui qui nous l'a placé. Et je pensais, peut-être que dans votre vie, souvent, on est limité dans notre potentiel parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans notre vie, des échecs. Ou bien l'image qu'on a de soi, ou l'image que les autres ont de nous. Vous savez, peut-être que notre vie n'a pas été ce qu'elle aurait été. Et je parle soit pour des personnes qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, soit pour des personnes qui ont rencontré le Seigneur. Et je te dis, qu'est-ce qui t'empêche qu'à partir d'aujourd'hui, tu arrêtes d'être une pomme et tu deviennes un verger? Qu'est-ce qui t'empêche qu'à partir d'aujourd'hui, que tous ces échecs, toutes ces souffrances, toute cette racine de rejet, tout ce que tu n'as pas pu faire, tout ce que tu n'as pas pu être jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui t'empêche de le devenir demain? Peut-être que tu as 20 ans dans le Seigneur, peut-être que tu en as 30, peut-être que tu as 6 mois. Peu importe, Dieu est le même, il ne change pas. Et les plans qu'il a mis en toi, l'appel qu'il a mis en toi, les dons qu'il a mis en toi, ils restent toujours les mêmes. Ils sont toujours à ta disposition. La seule chose, c'est d'aller les chercher. Et d'aller les chercher comment? Par la foi, en les lui demandant, en priant et en lisant la parole. La parole est efficace. Elle est tranchante, comme une épée à double tranchant. Si tu ne connais pas qui tu es en Dieu, si tu ne connais pas ce que Dieu a fait, tu ne pourras jamais le dupliquer. Comment peux-tu savoir que la guérison est à ton service? Comment peux-tu savoir que tu guéris les malades, que tu peux, que Dieu peut t'utiliser pour guérir les malades si tu ne l'as pas lu auparavant? C'est pas en restant, je vois les jeunes là, avec leur match-up, la swatch-up, je sais pas comment on appelle ce truc horrible, là, qui passent des heures là derrière, et Facebook et compagnie. Vous savez, Facebook et ce truc-là, j'arrive pas à le dire, c'est un mot que je n'aime pas. Vous savez, ça ne va pas vous amener, les jeunes, au potentiel où vous devez aller. Ça ne va pas vous amener à ce que Dieu a pour vous. Ça ne va pas vous amener à la victoire qu'il a pour votre vie. Ça ne va pas vous amener au plan qu'il a pour vous. Dieu veut que vous sachiez qui vous êtes et que vous lui ressembliez. Dieu veut que vous sachiez, que vous soyez en quête de votre véritable moi. Qui suis-je? Mais pour dire qui suis-je, il faut lui dire d'abord qui es-tu. On ne peut pas voir Christ, on ne peut pas voir Dieu en nous si on n'a pas vu dans la parole, si on n'a pas vu dans un miroir qui il est. Vous savez, on a souvent une notion d'infériorité. L'infériorité avec le Seigneur, ça n'existe pas. Et je peux en parler pendant des années et des années et des années et des années. J'ai eu cette notion d'infériorité. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise, tu es mon enfant, c'est moi qui t'ai créé, et je t'ai créé comme moi je le voulais. Alors c'est sûr, ça prend du temps de savoir. Mais vous savez, Dieu ne s'occupe pas du quotient intellectuel. Alors certes, on est appelé à être avocat, on est appelé à faire certains métiers, d'autres en feront d'autres, et le quotient intellectuel sert. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas un QI à 140 que Dieu ne va pas nous utiliser. On a besoin de savoir, vous savez, notre quotient intellectuel, comment il s'appelle ? Il s'appelle le Saint-Esprit. Parce qu'en lui sont toutes choses. En lui, avec lui et par lui, nous pouvons apprendre bien plus que ce que nous pouvions lire sur des livres de théologie pendant des années. 2 heures passées dans la présence de Dieu avec le Saint-Esprit, il va vous débloquer des choses que vous n'avez jamais vues depuis 20 ans. Vos yeux ne perçoivent pas ce que vous êtes, ne perçoivent pas votre potentiel, votre intellect n'arrive pas à connaître votre potentiel parce que c'est impossible, parce que notre vue est limitée. Nos oreilles entendent que ce qu'elles veulent entendre. Mais avec le Saint-Esprit, on peut avoir les yeux de Dieu, les oreilles de Dieu, et la bouche de Dieu, les bras de Dieu, les jambes de Dieu, et on peut être un verger. 1 Corinthiens 2:12 nous dit « Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » C'est par la révélation, par sa grâce. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il a déjà payé le prix pour que nous puissions connaître ces choses. Et ces choses, nous allons les connaître uniquement par la révélation. Parce qu'elles vont venir au fond de vous. Quand elles vont venir, que vous allez les connaître par l'esprit, ça va venir tellement au fond de vous, ça va être tellement ancré, tellement mis en profondeur, que vous ne pourrez plus aller contre ces choses. Quand vous me dites « Non, le Seigneur ne m'a pas parlé, le Seigneur ne m'a pas montré », je vais te dire « Alors, tu n'as pas été au bon endroit ». Je vous le dis à vous, mais je me le dis à moi. Ce qui est bien, c'est que quand on a le micro, on prêche, mais on se prêche aussi à soi. Vous ne serez jamais pleinement satisfait tant que vous ne saurez pas pourquoi Dieu vous a fait. Vous allez dire, oui, mais moi je suis dans l'église et je sers. Et merci Seigneur pour cette église qui est une église vraiment où tous les gens sont impliqués et servent. Et merci Seigneur vraiment pour le service qui est fait et donné par chacun. Mais au-delà du service que vous avez, peut-être que vous servez dans un domaine où Dieu a déjà mis vos dons, et c'est très bien. Mais peut-être que vous avez beaucoup plus à l'intérieur. Peut-être qu'il y a des choses que Dieu a mis qui dépassent ce que vous faites dans votre service. Alors je veux vraiment vous encourager ce matin à aller chercher au fond de vous, à prier et à demander quel est le potentiel que Dieu a mis en moi ? Quelles sont les choses que je n'ai pas encore vues ? Et Dieu vous les révélera. Dieu vous les révélera au moment où il faut. Vous savez, on a vraiment besoin de libérer ce potentiel illimité qui est en nous. Prenez Jean 12, 23. Il est écrit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. » Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. On va retourner à notre pomme qui commence un peu à noircir, mais c'est pas grave. Donc on va retourner à notre pomme avec là. Je n'arrive pas à le faire sortir. C'est pas grave. Donc dans le cœur de la pomme, je dis bien dans le cœur, pas dans la chair, dans le cœur. Il y a un pépin. Et ce pépin, il va falloir le sortir de la pomme, si on veut que la porte porte du fruit. Il va falloir le sortir de la pomme. Il va falloir le planter en terre. Une fois qu'il a été planté en terre, ce pépin, il va se retrouver seul. Il va se retrouver dans le froid. Il va se retrouver sous la pluie. Il va se retrouver sous le soleil. Il va se retrouver dans différents temps. Et vous savez quoi ? Le fait de se retrouver à cet endroit-là va faire que l'enveloppe du pépin, l'écorce du pépin, va s'éclater, elle va s'ouvrir et elle va permettre aux germes qui sont à l'intérieur de pousser et de commencer à porter du fruit. Et c'est exactement ce que nous devons faire. C'est exactement ce que nous sommes. Nous portons en nous des fruits. Mais il va falloir que les pépins de pommes qui sont en nous, on les enterre dans la terre. Il va falloir que nous mourions à nous-mêmes. Il va falloir que nous fassions ce que Dieu veut et non pas... Vous savez, Dieu va peut-être peut-être vous mettre la pression dans la vie. Dieu va peut-être vous amener à des endroits. Si vous ne le faites pas de vous-même et que vous continuez à vouloir marcher avec Dieu, il va vous amener à un endroit où il va y avoir de la pression, où vous allez être en sorte d'agir pour que le pépin s'ouvre et pour que le germe qui est à l'intérieur puisse commencer à sortir et à pousser. Il va falloir faire tomber vraiment toutes les barrières qui sont autour de nous. La Bible nous dit qu'il faut mourir aux choses de la chair. Ce n'est pas la chair qui doit mourir à nous, mais c'est nous qui devons mourir aux choses de la chair. Il n'y a pas écrit que c'est la chair, je le répète, ça n'est pas la chair qui va mourir, mais c'est nous qui allons devoir mourir aux choses de la chair pour pouvoir accomplir tout le potentiel que Dieu a pour nous. Notre réelle identité ne dépend pas de qui nous sommes sur terre, mais elle dépend réellement de qui nous sommes en lui. Et pour savoir qui nous sommes en lui, il va falloir laisser Dieu nous faire germer comme lui l'a voulu. Il va falloir laisser ce pépin germer, grandir et pousser pour qu'il puisse porter du fruit et qu'il puisse encore produire du fruit. Parce que de votre fruit, d'autres fruits vont être produits. De la pomme, il va y avoir un pommier et il va y avoir un verger. Et de votre vie, vous allez commencer à porter du fruit, mais vous-même, vous allez pouvoir aider d'autres à porter du fruit également, les amener à des endroits. Et cette église qui a 3000 personnes, elle a besoin de personnes qui soient capables de porter du fruit, de répondre oui et de dire non à la chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il va falloir garder une bonne attitude. Il va falloir continuer à faire confiance à Dieu. Il va falloir lui laisser la place. Alors, comprenez, je ne veux pas que vous vous affoliez. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne fait que la Bible, je prie, je lis, je travaille et stop. J'ai donné à ce niveau-là. Moralité, je me suis plus éloignée que ce que j'ai avancé. À un moment donné, Dieu, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour passer avec lui, il y a un temps pour lire la Bible, et on a un temps aussi où on va pouvoir prendre du temps avec la famille, l'amusement. Moi, je me suis mise à faire du cheval, c'est une idée comme une autre. C'est le Seigneur qui m'a amenée au cheval. Ne me demandez pas pourquoi il a choisi le cheval, mais je peux vous dire que depuis qu'il a choisi de m'amener au cheval, il y a des choses qui marchent. Parce que le fait d'avoir voulu faire quelque chose à côté, ça m'a ouvert, vous savez? Des fois, le fait de faire quelque chose à l'extérieur en plus, ça permet de voir les faiblesses qui sont en vous. Quand on commence à pratiquer, moi, je prends l'exemple du cheval, comme d'autres, ça sera d'autres choses. Le premier soir que je me suis retrouvée assise sur le cheval, bon, je ne vous dirai pas ce que j'ai pensé. Je ne vous dirai pas. Mais je vous garantis que ça a été une leçon. Quand il a commencé à falloir courir au trot, j'avais l'impression d'être un gros sac de patates ballotté sur un cheval. Et là, j'ai dit, il va falloir que je fasse mes muscles si je veux avoir une allure un peu plus élégante. Et vous savez, les situations qu'on peut vivre dans la vie vont faire que Dieu va nous amener à changer. Le simple fait d'avoir fait quelque chose qui me plaisait ailleurs, quelque chose que Dieu m'avait montré de faire. Il y a plusieurs façons de vivre. Soit on vit par la chair, je fais ce que j'ai envie, je pense ce que je veux, je ressens ce que je veux, et mon âme, eh bien, elle se régalera dans la chair, et c'est pas trop compliqué de continuer à vivre, puisqu'on fait ce qu'on veut. Enfin, pas trop compliqué jusqu'à un certain point. Mais on régale notre chair. Et pendant ce temps-là, notre esprit, il est en train de s'étouffer. Ou alors, on vit par l'esprit. Et à ce moment-là, quand on va commencer à vivre les choses de l'esprit, notre chair, elle va commencer à tirailler. Ça va faire mal. Mais le résultat qui en sort, vous le savez aussi bien que moi. Philippiens 4,13 nous dit « Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Et moi, la question que je me pose, c'est « Qu'est-ce que veut dire le mot « tout » pour toi ?» Le mot « tout » peut avoir une signification différente pour chacun. Mais ton tout à toi, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que Dieu t'a demandé de faire et que tu n'as pas fait? Quels sont quel est l'endroit où Dieu a voulu t'amener où tu n'as pas voulu aller? Quels sont les domaines de ton caractère et de ta personnalité que tu n'as pas voulu changer et qui font que tu arrives à un moment donné tu ne peux plus avancer. Qu'est-ce qui fait que ta famille n'est pas à l'endroit où elle devrait être ? Parce que tu n'as pas quelque part fait ce que tu devais faire. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit et il n'est jamais trop tard parce que je peux tout par Christ qui me fortifie. Et je vais vous dire une chose, peu importe l'âge que vous avez, vous allez me dire, ouais, mais ce que tu dis, c'est bien le potentiel, etc., de Dieu. Vous savez quoi ? Le potentiel, même à 80 ans, il y est toujours. Je connais une amie, je vous en ai déjà parlé, dans le Var, Gabrielle, 95 ans, elle est tout le temps à la maison parce qu'elle ne peut rien faire d'autre. Ok, sauf aller au supermarché avec sa fille. Et quand elle va au supermarché avec sa fille, elle fait la queue à la caisse parce qu'elle part du Seigneur à la caissière. Vous savez quoi ? Le potentiel qui est dans cette femme, elle le connaît. Elle le connaît et de partout où elle va, elle parle de Christ. Elle prie pour sa famille. Elle prie avec une telle ferveur. Elle prie avec une telle foi. Elle prie avec une telle ardeur parce qu'elle connaît ce qui lui appartient en Christ. Elle connaît ce que Dieu a fait. Elle le sait. Et vous savez quoi ? Sa famille, c'était une famille qui était au Seigneur, qui s'est éloignée pendant des années et toute sa famille est en train de revenir à Dieu et de vouloir marcher avec Dieu. La semaine prochaine, ses petits-enfants se marient. Vous savez comment ses petits-enfants se marient ? Tout simplement et bêtement, personne ne leur a dit. Personne. Quand on les a vus il y a quelque temps, elle m'a dit, nous, on veut se mettre en règle avec Dieu. Personne ne leur a parlé qu'il fallait le faire. De même, ils ont dit, nous, on veut être en règle avec Dieu et on croit que le Seigneur va faire de grandes choses pour notre couple. Tout ça pourquoi ? Parce qu'il y avait mamie derrière qui priait, parce que mamie connaissait le potentiel qui était dans elle, mamie connaissait le potentiel de Dieu, et elle a mis en application dans la prière, puisqu'elle, son champ d'action, la seule chose qu'elle pouvait faire, c'était prier. Quand il vient une infirmière à la maison, quand il vient n'importe qui à la maison, elle parle du Seigneur à tout le monde. Même sa fille, elle me dit, elle saoule, elle ne fait que parler du Seigneur. Mais vous savez quoi ? Les gens l'écoutent et ils repartent tous avec un livre, une prière sur la foi, une prière, une confession du salut. Ils repartent tous avec quelque chose. Il y a un endroit, une prière que je voudrais qu'on voit ensemble, c'est la prière de Jabez. 1 Chronique 4, 9 à 10. Vous savez, cette prière, si vous la prenez réellement au sérieux, vous n'allez plus être le même dans quelque temps. Jabez invoqua le Dieu, verset 9. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez, en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Alors, à savoir que Jabez, ça veut dire souffrance. Imaginez-vous quand elle appelait son fils souffrance à table. Donc, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, « Si tu me bénis et que tu étends de mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Mais si tu me bénis, la Bible dit que nous sommes bénis. De toute façon, il n'y a pas le choix, on est bénis en Christ, on n'a pas le choix. On n'a pas besoin de lui demander, la Bible le dit. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est lui dire, « Ok, Seigneur, étends mes limites. » Étends mes limites, fais-moi sortir de ce carré dans lequel je me suis mise et emmène-moi beaucoup plus loin et beaucoup plus haut avec toi. Vous savez, souvent à l'église, on chante « Oui, j'ai la vie de Dieu, j'ai la capacité de Dieu, j'ai tout en moi. » Oui, c'est bien de chanter ça. Mais là, aujourd'hui, je vais vous poser la question, où sont tes limites qui t'empêchent d'aller plus loin avec toi, avec Dieu ? Pomme ou verger ? Je reste ce que je suis et à la limite, à un moment donné, je vais faire marche arrière parce que si je ne vais pas de l'avant, quelque part, ce que j'ai acquis, je risque, disons, pas de le perdre parce que ce que Dieu donne, ça n'est pas perdu, mais je risque de l'enterrer, de l'enfouir et de le cacher. Ou est-ce qu'aujourd'hui, je vais faire comme Jabez et lui dire, Seigneur, étends mes limites, emmène-moi là où tu ne m'as jamais emmené. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il va vous envoyer en Afrique, à Tombouctou. Mais je parle d'un endroit spirituel, de l'endroit où vous êtes. Emmène-moi là où je n'ai jamais été. Étends mes limites. Donne-moi de me dépasser. Donne-moi d'aller au-delà de mes craintes. Donne-moi d'aller au-delà de mes soucis. Donne-moi d'aller au-delà de ce que je vois. Pomme ou verger ? Et pour terminer, je voudrais que vous preniez Éphésiens 3, 20. Et vous le connaissez tous, j'en suis sûre, par cœur. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons, à lui soit la gloire. Dieu peut faire des choses que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vues et dont vous n'avez jamais entendu parler. Dieu peut vous utiliser comme il ne l'a jamais utilisé. Cette église, elle a 3000 membres. Dieu peut vous utiliser pour les gens qui sont à l'extérieur. Dieu peut vous utiliser pour aller prier pour les gens. Dieu peut vous utiliser pour parler aux gens. Dieu peut vous utiliser pour exhorter les gens. Dieu peut vous utiliser pour les encourager. Dieu peut vous utiliser de mille et une façons. La seule chose que j'ai à faire, c'est Seigneur, à toi, ta puissance. Cette puissance, elle agit en moi, bien au-delà de ce que je pense. Ça veut dire que, alors que je n'y pense pas, la puissance qui est en moi, elle agit, que je le veuille ou pas. Bien au-delà de ce que je pense, bien au-delà de ce que je demande, parce que ma tête, elle est limitée. Mais mon Dieu est illimité. Et si nous lui donnons la possibilité de vivre et de venir en nous, d'agir comme il le veut en nous, il nous amènera dans des endroits où nous n'avons jamais été. Alors, encore une fois, pomme ou pommier. Ou verger, pardon.